Bonjour à tous, bienvenue à l'EPI, bonjour à ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'on a un peuple prêt à louer, à célébrer le Seigneur ce matin? On est prêt? On loue Dieu tous ensemble et très heureux d'être là pour ce temps de célébration. conscience que nous venons devant un Dieu tout-puissant, le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu souverain. L'apôtre Paul l'écrit aux Éphésiens au chapitre 1er, où il dépeint la grandeur et la puissance de Dieu. Il prie pour les chrétiens d'Éphèse afin qu'ils comprennent quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Il s'agit de Dieu. À nous qui plaçons notre confiance en lui, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons. Te remercions parce que tu es grand, tu nous dépasses. Permets-nous de percevoir un peu quelque chose de ta grandeur dans le cadre de ce culte, de ta paix, de ta joie, de ton amour, mais aussi de ta grandeur. Tu domines tout. Nos vies sont entre tes mains. Nos circonstances, nos situations te sont parfaitement connues. Tu domines toutes choses. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et nous fléchissons le genou devant toi. Nous nous courbons devant toi. Nos cœurs, nos pensées se tournent vers toi pour non seulement te louer, mais aussi t'adorer. Tout en nous se tourne vers toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Merci parce que cet Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Quelle grâce, Seigneur. Et en toi, nous savons qui nous sommes à cause de Jésus. Alléluia.
À toi soit l'honneur, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis.
D'être à lui. Quel bonheur d'être sauvé et de posséder intérieurement l'assurance du salut. Savoir que Jésus nous a donné la vie éternelle. Quel bonheur.
to love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Pensez à quelques paroles que le Seigneur vous a données dans votre temps personnel, dans votre lecture personnelle. Il y a peut-être un verset qui vous a particulièrement frappé, peut-être cette semaine, peut-être ce mois-ci, ou peut-être un verset de vie. Moi, j'ai un verset que j'aime beaucoup et auquel je me suis souvent accroché dans des moments particulièrement difficiles. C'est Apocalypse au chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et peut-être que vous avez un verset sur votre cœur et qui vous a accompagné tout au long de votre parcours. Peut-être que vous pourrez le serrer ce matin très fort et dire « Seigneur, merci pour cette promesse. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es grand et dans ta grandeur, tu as su me garder jusqu'à ce jour. Merci pour ta fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Quelque chose qui m'a gardé. Et je suis sûr que la parole de Dieu, le mot promesse et le mot parole, la parole de Dieu est en mesure de te garder fidèle, de te garder stable, de te garder constant. Il est Dieu, il est grand, et sa grandeur se répercute dans nos vies. Quel bonheur! Alléluia! Alléluia! Merci. C'est un peu timide. Est-ce qu'on peut faire une standing ovation pour le Seigneur? Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne de recevoir notre investissement, notre engagement. On va terminer ce temps de louange et d'adoration avec un chant qui a fait le tour du monde. Et notamment à une occasion particulière. Nous sommes en 1972, les Jeux Olympiques à Munich. Nous sommes le 5-6 septembre. Il y a une prise d'otage. 11 Israéliens sont pris en otage et le 6 septembre, il y a 17 morts, dont 11 athlètes israéliens. Et le lendemain de ce drame est organisée une grande marche en hommage aux victimes. Et dans cette marche, il y a 1000 chrétiens qui sont venus pour rendre témoignage à l'occasion des Jeux Olympiques, 1000 chrétiens avec une rose à la main, en signe de soutien, de solidarité avec les victimes et leurs familles qui étaient venues sur les lieux, et en signe d'espérance. Et ces 1000 chrétiens chantent ce chant, Jésus-Christ est Seigneur. Et on va le chanter ensemble pour conclure ce temps et donner toute la gloire au Seigneur. que Jésus est Seigneur
et la Seigneur.
On va écouter une parole du Seigneur.
Tu as consacré ta vie à Dieu. Tu lui as dit, je te suivrai partout et en tout temps. Et cela fait des années que tu marches ainsi. Et le Seigneur est honoré au travers de ta vie. Le Seigneur est réjoui de voir ton cœur, le sérieux de ton engagement. Et il veut t'amener plus loin. Jusqu'à ce jour, tu as été béni et tu es dans l'abondance. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu exprimes témoigne de l'abondance que Dieu t'a donnée. Le Seigneur te demande ce matin, est-ce que tu es prêt à ce qu'il enlève tout, qu'il te dépouille? Est-ce que tu es prêt à le suivre dans le dépouillement? Est-ce que tu es prêt à honorer ton engagement premier, même si tu as l'impression de ne pas être béni en retour? Dieu ne te force pas la main et t'oblige à rien. Mais si tu veux sérieusement mieux le connaître, mieux entrer dans son intimité, il a besoin de te dépouiller de ce que tu as. Et il te demande ton accord. C'est dans l'intimité avec lui, dans ta chambre, que tu lui donneras la réponse. Et ainsi tu verras qui est réellement ton Seigneur, ton Dieu. Et tu seras étonné où il veut t'amener, où il peut t'amener. Ne te décourage pas, mais lève les yeux vers lui. Tu as été fidèle, mais lui, il a été encore davantage fidèle. Même dans tes moments de chute, dans tes moments de recul, il était à côté de toi. Dans les moments de souffrance, il t'a soutenu. Dans les moments de joie, il t'a fortifié. Il t'a amené toujours plus haut. Mais aujourd'hui, tu es à la croisée des chemins. Le Seigneur attend de toi ta réponse. Amen.
Nous te remercions, Seigneur, parce que tu parles d'une manière ou d'une autre. Tu parles par ta parole, tu parles par les hommes. Tu parles dans la prière, dans les chants, et tout contribue à nous permettre de progresser dans notre cheminement avec toi. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de développer et de faire mûrir notre engagement, de l'approfondir. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance à notre égard, la manière dont tu nous reprends, dont tu nous permets de progresser. Tout cela, Seigneur, montre ton amour, ta grandeur, et la joie que tu prends de bénir personnellement, individuellement, et de bénir ton Église. Merci, Seigneur. On prie également pour le message qui va être apporté dans un instant. Merci de bénir ta servante, de bénir ta parole, qu'elle vienne nous nourrir et permette de construire avec toi une vie solide, stable, profonde. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.
Bonjour à tous, vous allez bien ? Alors avant de démarrer le message, avant d'aller dans le vif du sujet, on m'a chargé d'une petite annonce. Une petite annonce qui a une grande importance. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur le registre de l'Église, vous êtes 1499 personnes à être inscrites. Autant des enfants, des ados, des pré-ados, des jeunes depuis plus longtemps. Amen. Et sur ces 1499 personnes, il y a, vous savez combien, entre 0 et 25 ans ? Il y a 635 jeunes de 0 à 25 ans, 42%, un peu plus de 42%. C'est pas merveilleux, ça ? Elle est jeune, notre Église ? Amen. Mais pour, vous savez que la vision de l'EPI, dans la vision de l'EPI, c'est de donner un enseignement adapté à tous les âges. Donc aux enfants, aux préados, aux ados, aux jeunes depuis plus longtemps, aux parents, aux célibataires, à tout le monde. Mais pour donner des enseignements à ces 0-25 ans, il nous faut du monde. Il nous faut des personnes qui ont envie de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes heureux de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Qui a reçu un enseignement étant enfant ? Amen, ok. Eh bien, nous avons besoin de personnes qui ont à cœur de s'occuper des enfants, des préados, des ados et des jeunes. Alors si ça brûle sur votre cœur, n'hésitez pas, allez voir Magali, allez même au point accueil, et vous inscrivez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. J'en suis sûre qu'il va y avoir une belle liste là aussi. Amen. Ok, dans pas longtemps, je suis en vacances et je suis remplie de wouhou, joie. On est content quand on part en vacances, non ? Amen, ouais, ok. Mais quand on rentre, la joie, elle n'est pas trop là. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive, il y a des moments, des circonstances, des personnes qui nous remplit de joie. Vous êtes d'accord ? Qui nous rendent heureux. Le titre du message ce matin, c'est « Je suis heureux, je suis heureuse, car... » Et j'ai été travaillée par cette question. Anne, es-tu heureuse d'être sauvée ? Es-tu heureuse que tes péchés sont pardonnés ? Et je ne sais pas, à ce moment-là, je vous avouerai que je ne sais pas, ma réponse n'était pas forcément oui. Et on va voir en explorant les versets de Éphésiens 2, versets 1 à 10, nous allons découvrir la profondeur et le poids de notre salut. Et comment cela peut continuellement nous remplir de joie au quotidien. On va remarquer à la lecture de ces versets qu'une suite logique est mentionnée, nous présentant en tout premier notre condition avant la rencontre de Jésus. Puis nous montrer l'intervention de Dieu. Et puis après cette intervention de Dieu, nous verrons que ce que nous devons être quand nous acceptons Dieu dans notre vie. Et la structure de ce passage nous amènera sûrement à réaliser l'importance et la valeur du salut. Et avant, il me semble important de préciser que ces versets viennent de Paul. Ils ont été écrits quand Paul était en prison à Rome. Il était en prison à Rome. Et au travers de cette lettre, Paul présente le plan de Dieu avant la création du monde et jusqu'à l'éternité. L'église d'Éphèse fut fondée par Paul lors d'un de ses voyages missionnaires. Et n'étant pas sûr de pouvoir retrouver, de pouvoir revoir les chrétiens d'Éphèse, il écrit cette lettre pour les encourager dans la foi, en leur expliquant la nature et le but du corps de Christ qui est représenté par l'Église. Notre condition avant de rencontrer Dieu. On va lire dans Éphésiens 2, versets 1 à 3. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. » Conformément au prince de la puissance des ténèbres, de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Paul commence fort. Quant à vous, ça pourrait être pris comme une accusation. Là, il s'adresse à des lecteurs qui ne sont pas d'origine juive. Paul serait-il en train de les accuser, de les condamner ? Non, pas du tout. Par la suite, on voit au verset 3 qu'il utilise le pronom « nous ». Il s'inclut. C'est comme si moi, ce matin, je disais « quant à vous ». l'église de l'Épi. Mais je préfère dire quant à nous, l'église de l'Épi. Vous étiez mort. Paul ne parle pas à des personnes qui ont connu la mort physique et qui sont ressuscitées, non. Il parle d'une mort, de la mort spirituelle. Dieu, dans le jardin d'Éden, avait dit à Adam et Ève qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, car ils allaient mourir. Et on connaît l'histoire, Adam et Ève n'ont pas suivi le conseil de Dieu, et par la suite, Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden, car il était impossible de vivre avec des êtres pécheurs. De ce fait, là, Adam et Ève, ils n'avaient plus accès à l'arbre de vie et avaient perdu cette connexion avec Dieu. Ils avaient perdu la relation avec leur Créateur. Dieu avait donné un sens à l'humanité. Dieu avait donné une direction à suivre. Étant séparés de Dieu, étant séparés du sens de nos vies, l'humanité a perdu complètement le sens de leur vie, a perdu la direction à suivre, et donc se traduit par une mort spirituelle. Nous avons souvent entendu dans des discussions des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui disent « mais je ne sais pas pourquoi je suis si bas, je ne sais pas quel est le sens de ma vie, je ne sais pas pour qui, pourquoi je vis ». La cause de cette mort, c'est la séparation de Dieu, mais l'acte qui a causé la mort, c'est le péché. Romains 6, 23 le dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Jérôme en a parlé la semaine dernière. Le péché, c'est manquer la cible. Le péché, c'est ne pas obéir à Dieu. Paul lui dit bien, vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois. Nous avons accompli des actes mauvais, comme dire des mauvaises paroles, avoir eu des pensées déplacées où nous avons fait ce où nous n'avons pas fait ce que Dieu nous demandait. Le péché peut être quelque chose que nous avons commis ou peut-être quelque chose que nous avons omis de faire, puisque ne pas faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Étant donné que nous étions séparés de Dieu, de sa présence, que nous n'étions plus sous son influence, nous ne pouvions plus agir selon sa volonté. Et donc, nous étions sous une autre influence. Et on va voir sur quelle influence nous étions. Conformément à la façon de vivre de ce monde. Littéralement, en grec, vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Ce que Paul démontre dans ce passage, c'est qu'avant ceux qui constituaient l'église d'Éphèse, avant d'être des croyants, avant de faire la volonté de Dieu, ils agissaient selon les habitudes, les coutumes de l'époque. Et ce qui était complètement en contradiction avec la volonté de Dieu. Ils se conformaient à cette manière de vivre. Le monde s'oppose à Dieu. Et de ce monde, il y a tellement de personnes qui s'opposent à Dieu, à son autorité, à sa volonté. Tout est organisé en fonction parfois de, même pas sans le consulter. Et parfois nous suivons la foule. Et cette influence, nous la vivons tous les jours. On va vous passer une petite vidéo qui va nous montrer comment souvent l'influence se répercute sur chacun d'entre nous. Et parfois par obligation ou parfois sans s'en rendre compte. Je vous laisse vivre.
The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice, they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch.
Merci beaucoup. On voit bien l'influence. L'influence de ce monde. L'influence de ce monde, et ce monde est influencé par, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Alfred Kuhn dira, selon la tradition juive, les démons habitaient dans les airs. Le mot grec « aere » désigne la couche d'air inférieure, celle qui est polluée. C'est pourquoi il est synonyme de brume, obscurité, ténèbres. L'atmosphère spirituelle dans laquelle nous baignons est polluée par des influences démoniaques. On pourrait donc aussi traduire cette expression par « prince des ténèbres ». Et le prince des ténèbres est associé à Satan, l'accusateur, le tentateur, le diable. Il exerce une forte influence aux idéaux, à nos opinions, aux espoirs, aux idées, aussi aux courants philosophes du monde, à l'éducation et au commerce, dans nos pensées. Il a une influence, mais Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. Nous pouvons aussi être influencés par notre nature propre, la nature humaine. Nous vivons selon nos propres désirs. Les besoins naturels, manger, boire, dormir, les besoins même sexuels sont bons, ils ne sont pas mauvais. Ils le deviennent lorsque ça dégénère à l'excès ou à la perversion. Bruce dira, la chair peut se montrer sous une forme très respectable, comme sous la forme la plus méprisable du paganisme du premier siècle, aussi respectable que puisse être le vêtement ou le déguisement qu'il adopte. Notre égocentrisme invétéré est la preuve d'un terrible esclavage. Dieu au commencement a dit que tout était beau et bon. Donc, il nous avait créés avec des désirs qui étaient beaux et qui étaient bons. C'est cependant la manière où on répond à ces désirs. Un exemple simple, c'est bon de manger une bonne choucroute, un bon rougail saucisse. Vous ne connaissez pas, mais un bon aioli, les sudistes comprendront. C'est bon, les bons goûts, les saveurs. Là où ça peut dégénérer, c'est quand c'est à l'excès. Ne mangez pas trop sucré, trop salé. Cholestérol, etc. Le péché, nous l'avons tous pratiqué. Et là, ce matin, il n'est vraiment pas question de condamner. Il n'est vraiment pas question de juger. Mais il est question d'être tous au même niveau d'information, au même niveau de condamnation. Nous avons tous péché. Alors certains me disent, « Ouais, non mais Anne, ça va, je n'ai pas commis un meurtre, ça va. » Aux yeux de Dieu, mentir, commettre un meurtre, c'est le même niveau. C'est les conséquences qui sont différentes. Nous sommes tous au même niveau. Mais heureusement, il y a l'intervention de Dieu. Notre deuxième partie. Le constat de notre vie sans Dieu est mortelle. Je joue sur les mots, mais elle est mortelle. Éphésiens 2, versets 4 à 7, « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Amen. Paul utilise le « mais ». Conjonction de coordination, on fait un petit peu de français. Hein. Pour ceux qui sont en vacances comme ça, ça fait un rappel. Mais, la conjonction de coordination sert à mettre en contradiction, en opposition avec l'information qui a été donnée juste avant. Étant pécheur, éloigné de Dieu, je pense qu'on l'a compris, qu'on le sait. Dieu n'aime pas le péché. Et on méritait la colère de Dieu. On méritait la colère de Dieu. La mort éternelle, sans possibilité de retour en arrière. Mais Dieu, l'importance des petits mots qui ont toute leur puissance, qui font toute la différence. Mais Dieu, Dieu, le créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, celui qui est parfait, celui qui est saint, celui qui est irréprochable. Mais Dieu renverse la situation. Celui à qui on a fait du mal, celui contre qui on s'est rebellé, mais Dieu. Celui qui aurait pu nous bannir éternellement. Mais Dieu est riche. Il est riche en, et l'expression « riche en » suggère qu'il y a une quantité, une abondance, une profusion d'une qualité particulière. Et dans ce cas, cela signifie que Dieu possède une quantité qui ne peut se mesurer, illimitée. Et la qualité qui est mise là en avant, c'est la compassion. La compassion, c'est un individu qui est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui. Et poussé à y remédier. La compassion se réfère à un sentiment profond d'empathie, de compréhension et de souci pour les souffrances et les difficultés des autres. C'est une forme d'amour bienveillante et attentionnée envers ceux qui sont dans le besoin. La compassion de Dieu pourrait être comparée à une lumière. Nous sommes dans les ténèbres, les péchés ont été... Comment dire, les péchés sont présents et on est dans l'obscurité. Et Dieu est cette lumière qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie à suivre. Dieu nous voit dans cette misère. Et la miséricorde, c'est que quand Dieu nous voit dans cette misère, il nous envoie une corde, la miséricorde, une aide, pour qu'on puisse se sortir de là. Ce qui a poussé Dieu à manifester de la compassion, c'est l'amour qu'il nous porte. Dominique Angers dit « pour captiver l'attention des Éphésiens ». Paul emploie deux mots de même famille, le substantif « amour » et le verbe « aimer ». Il précise en outre que l'amour divin est grand. Dans le contexte d'Éphésiens 2, 1 à 10, la caractéristique principale de l'amour de Dieu est qu'il se manifeste envers des individus ayant rejeté Dieu et provoqué sa colère. Dieu a aimé celles et ceux qui n'avaient pour lui aucun respect. Dieu a aimé les hommes et les femmes qui étaient morts en raison de leur faute. Ils s'étaient ingratement rebellés contre lui. Voilà ce que son amour a de singulier. Dieu a aimé des cadavres spirituels. Dieu aurait pu nous laisser dans notre mort spirituelle, dans notre rébellion contre lui. Il aurait pu nous laisser sous l'emprise du péché. Mais là, on voit que Dieu, dans son immense amour, ne regardons pas à notre péché, à ce qui le repoussait. Il a fait le plus grand acte d'amour. C'est quand même dingue, son amour voit au-delà de nos péchés. Humainement, nous avons plutôt tendance à rejeter, repousser, à dire next à une personne qui nous a blessés. qui nous a condamnés. Il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes pécheurs, donc séparés de Dieu. Et pour rétablir la connexion avec Dieu, il faut un sacrifice. Et encore une fois, je fais un rappel de la prédication de la semaine dernière où Jérôme disait, il y a un détail auquel on ne fait pas attention dans les premiers chapitres de la Genèse. Et ce détail, c'était que Jésus va mettre à mort un animal pour la rédemption, pour le pardon du péché. Jésus va faire couler le sang, le premier sang d'un animal, pour cacher quelque part la honte que Adam et Ève avaient. Et on pourrait se demander, mais pourquoi un sacrifice? Pourquoi faire? Dans les Lévitiques, Dieu dit à Moïse que la vie d'un être est dans le sang. Le texte attribue au sang une valeur expiatoire, le rachat de paiement. L'animal paie de sa vie à la place de l'adorateur et pour sa faute. Cela veut dire que le sang ne contient pas la vie, mais il représente. C'est une image. Et souvent, quand on voit le sang couler, vraiment fort, 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 quand on voit des hémorragies extérieures, ça nous fait penser tout de suite à la mort. Et on se dit, là, on voit du sang, c'est la mort. Le sang représente la vie donnée ou prise, et donc la mort. Et Dieu a instauré ces sacrifices d'animaux pour que les êtres humains soient pardonnés de leurs péchés. Les anciens sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament ne pouvaient effacer complètement le péché. Et devaient être répétés souvent, répétés plusieurs fois. Mais Jésus, en entrant dans le lieu très saint, a offert son propre sang, une seule fois. Ce qui a rendu les futurs sacrifices inutiles. Jésus l'a dit avant de mourir, avant de donner son dernier souffle, « Tout est accompli », il l'a dit sur la croix. Le sang des animaux ne peut plus purifier les hommes de leur péché. Et ce n'est qu'en acceptant le sacrifice de Jésus qui a versé son sang sur la croix pour pardonner les péchés que nous pouvons être justes devant Dieu. En acceptant, en croyant, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique à la croix pour nos péchés, pour effacer notre dette. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on était aimables. Moi, je le croyais à un moment donné. Je suis une fille quand même assez bien. Je suis gentille. Non, c'est pas vrai. Dieu ne nous a pas changés, rendus parfaits pour après nous aimer. Il nous a aimés malgré ce que nous étions, car il est amour. Et cette forme d'amour sans autre raison que l'amour, ça s'appelle la grâce. La grâce que Dieu nous fait, c'est de nous accorder la vie à nous qui méritions la mort. Dieu, au travers du sacrifice de Jésus, nous donne accès à la vie éternelle, en sa présence. Et pour pouvoir avoir accès à ce salut, Romains 10, 9 nous le dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça paraît simple, hein ? Ça paraît simple. Grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. On peut s'imaginer qu'en fait, on a toujours les pieds sur terre, mais le cœur est dans le ciel. Par l'action du Saint-Esprit, dans nos vies, nous avons le cœur dans le ciel, la présence de Dieu dans nos vies. Dieu habite en nous et nous sommes du coup en connexion directe avec Dieu. Un jour, nous serons entièrement dans sa présence. Et le verset 7 nous dit que tout cela est fait pour montrer à tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de la grâce que Dieu nous fait. Pour que nous puissions chacun témoigner à son tour de la joie du salut. Quand les personnes se font baptiser, elles passent de la mort à la vie, elles s'engagent devant Dieu et devant les hommes. Là aussi, il y a une joie, la joie du salut, la joie qu'elles sont sauvées. Vous êtes contents quand il y a des baptêmes ? Un pasteur, une fois, qui m'a raconté que Dans son église, il y avait des baptêmes, mais dimanche après dimanche, il y avait des baptêmes. Et qu'à un moment donné, des chrétiens disaient, mais les baptêmes, ça va un moment, mais passe de la mort à la vie. Est-ce qu'on se réjouit parce qu'il passe de la mort à la vie? La joie du salut? On a vu qu'on était condamnés, qu'on était pécheurs. On a vu que Dieu, dans son amour, sa grâce, il nous a donné son Fils unique pour effacer nos péchés. Et cette dernière partie, c'est ce que nous sommes maintenant. En croyant que Jésus soit mort et ressuscité, d'entre les morts, nous passons de la mort à la vie. Nous sommes déclarés justes. Nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes graciés. Nous ne sommes plus rejetés, mais nous sommes acceptés. Nous sommes accueillis dans la famille de Dieu. Nous sommes en règle avec Dieu. Nous sommes en quelque sorte une nouvelle créature. La suite de Éphésiens 2, le verset 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans la version Parole vivante, il est écrit « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. » Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Quand on reçoit un cadeau, est-ce qu'on va voir la personne et lui dire « Combien je te dois ?» Vous vous dites à la personne « Combien je te dois ?» Quand vous avez un cadeau, non, hein ? Quand on reçoit un cadeau, bon, j'avoue qu'on est un peu des fois mal à l'aise parce qu'on ne sait pas quand qu'est-ce qu'il y a dans le paquet. Mais quand même, on est reconnaissant. Merci. Merci parce que tu m'offres quelque chose. Merci parce que tu me donnes quelque chose. On manifeste notre joie. Quelle est notre joie intérieure quand je dis que nous n'avons plus de condamnation? Est-ce que, avec le temps, avec les épreuves, le salut est devenu pour nous une banalité? Est-ce que, à force d'entendre « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », etc., à force d'entendre que vos péchés sont pardonnés, est-ce que, à force d'entendre ça, la joie n'est plus là? Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Quand Paul parle du salut, il englobe le passé, le présent et le futur. Certes, Jésus est mort une fois pour toutes, mais notre foi est-elle toujours au rendez-vous? Paul dit dans le passage que je viens de vous lire, « Et cela ne vient pas de vous. » Il parle de la foi. « Et cela ne vient pas de vous. » Ce qui veut dire que la confiance en Christ, qui est le moyen de s'approprier le salut, est aussi un don. Dieu donne à tous les croyants la foi qui sauve. Pour illustrer cela, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un petit garçon qui va voir sa maman avec un état tout triste. Il va voir sa maman et dit « Maman, moi je crois qu'en fait, ben, tu aimes plus Dieu que moi. Ça se voit. » Et la maman... Elle regarde, elle s'abaisse, elle regarde son fils droit dans les yeux et elle dit mais mon chéri, mais j'ai besoin de Dieu pour arriver à t'aimer comme il faut. J'ai besoin de Dieu pour arriver à te donner l'éducation qu'il te faut. J'ai besoin de Dieu pour arriver à répondre à tes besoins. La maman avait compris que tout lui venait de Dieu. Tout lui venait de Dieu. Philippiens 2, 13 dit en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des fois où je me croyais la fille super gentille et tout, et je sais que mes parents, ma sœur et d'autres personnes pourront témoigner que des fois c'est catastrophe. Hein. Et je suis consciente qu'aujourd'hui, je remercie Vous êtes plusieurs à complimenter, à dire des compliments et tout. Et je suis consciente qu'aujourd'hui, tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je suis consciente que aussi, que pour arriver à avancer chaque jour, j'ai besoin de lui, de sa présence, de l'action de son esprit dans sa vie pour aimer, pour le servir comme il faut. Sans lui, je ne suis rien. Il est celui qui nous a créés. Le péché nous a déformés, mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes recréés à son image pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Nous devenons des partisans de la nouvelle création, celle que nos yeux ne voient pas aujourd'hui, mais qu'elle peut le voir au travers de nous, parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Nous sommes participants du royaume de Dieu, et nous devons le vivre dès maintenant. L'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu qui guérit, qui sauve, qui manifeste son amour. Nous le vivrons pour l'éternité, mais commençons à le vivre dès maintenant. Je vais demander à l'équipe de louanges de monter si elle le veut bien. Nous sommes appelés à marcher dans un chemin qui est l'opposé de celui que nous empruntions avant de changer de vie. Les œuvres bonnes que nous allons pratiquer, que nous allons accomplir, c'est Dieu qui les a préparées d'avance. Et si on veut bien accepter Jésus-Christ, si on veut bien croire que Christ est mort pour nos péchés, rien ne vient de nous. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la vraie traduction, c'est voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles, petit à petit. Nous nous laissons transformer, remplir par l'action du Saint-Esprit, en ayant cette connexion avec Dieu jour après jour. Dominique Anger dit, nous chrétiens, constituons la réalisation admirable de Dieu, sa création. Or, nos propres réalisations, nos œuvres bonnes, sont en réalité les siennes. La boucle est ainsi bouclée. L'Église n'est rien d'autre qu'un chef-d'œuvre qui produit de belles œuvres. L'Église n'est rien d'autre qu'un chef-d'œuvre qui produit de belles œuvres par l'action de Dieu dans nos vies. Dieu n'a pas regardé à notre condition de pécheur. Et il nous a aimés. Il nous a pardonnés pour que nous pratiquions de bonnes œuvres. Je ne sais pas si ça vous dit. Je ne sais pas si ça vous enchante, mais je vous assure, la vie avec Dieu, punaise, c'est pas tous les jours facile. C'est pas le chemin avec des pétales de rose. Mais quand je vois qui j'étais, et quand je vois ce qu'il fait de moi, je peux juste qu'être heureuse. Je peux juste être remplie de joie. Je mérite rien, en fait. Il est mort parce que moi, je l'ai jugé, parce que je l'ai condamné, parce que j'ai refusé de lui obéir. Et lui, il n'a pas regardé au mal que j'ai fait. Mais il m'a aimé. Il m'aime encore, il nous aime encore. Il t'a aimé ce matin. Il t'aime, il t'a aimé, il t'aimera toujours. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Et pratiquer ses bonnes œuvres, c'est se réjouir dans la faiblesse, comme Jérôme l'a apporté la semaine dernière, être fier d'être faible, parce que Dieu se manifeste au travers de notre faiblesse. C'est comme l'a prêché Michel il y a 3 semaines, être des artisans de paix dans un monde de violence. C'est comme Mathieu l'a prêché aussi, d'arriver à détecter ces idoles modernes qui nous entourent et à ne pas chuter, à ne pas tomber, à ne pas se faire avoir. J'aurais d'autres à citer, il y en aurait d'autres. C'est Dieu qui nous permet de le pratiquer. C'est Dieu de faire des œuvres qui reflètent le royaume de Dieu. Et pour arriver à ce que cette joie nous émerveille, pour arriver à ne pas l'oublier avec le poids des années, la structure du message nous rappelle. J'étais pécheur. J'étais condamné. Et franchement, j'en aurais pas voulu à Dieu parce que je le méritais. Nous le méritions tous. J'étais condamné, mais par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Je suis pardonnée, nous sommes tous pardonnés. Nous sommes tous ses enfants. Nous lui appartenons tous. Et maintenant, alors je veux être, nous voulons être, cette église qui apporte, qui est témoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Et je souhaite vraiment qu'on ait cette joie qui nous pousse à aller, cette joie qui nous pousse à être ses témoins auprès de nos familles, de nos collègues de travail, auprès des gens de l'extérieur. Cette joie du salut, on est sauvés, on va vivre l'éternité ensemble. Hein. Commençons à la vivre maintenant. Commençons à être ces artisans de paix. Commençons à être fiers de nos faiblesses parce que Dieu va se manifester. Si j'arrive à vous parler ce matin devant vous, à plein de monde, je dis je suis timide. Personne ne me croit. Mais c'est parce que la grâce de Dieu, parce que Dieu m'utilise et parce que j'ai dit oui Seigneur, je veux te servir. Parce que oui, je crois en ton salut. Je crois que tu m'as sauvé. Je crois que tu m'as libéré. On peut se lever ensemble et je vais prier. Seigneur, j'ai pas de mots pour convaincre, mais que ton esprit convainc encore ce matin, Père, que nous étions pécheurs, que parfois nous sommes pécheurs, que peut-être certains le sont encore pécheurs, mais que tu as tout accompli à la croix, en versant ce sang pour effacer notre dette, nos péchés. Je te loue et je te bénis parce que tu mets en nous le vouloir et le faire pour te servir, Seigneur mon Dieu, pour produire, Seigneur mon Dieu, ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Et oui, ensemble, nous voulons vivre ces bonnes œuvres, nous voulons vivre les prémices que nous vivrons, Seigneur mon Dieu, dans la vie éternelle à tes côtés. Merci mon Dieu, merci de toucher, merci de convaincre, merci pour qui tu es. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
Je suis choisie et affranchie, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis choisie. Je suis choisie et affranchie, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, tu es pour moi, pas contre moi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es, pour moi, pas contre moi. En toi, je sais une dernière fois, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es.
Remercions Seigneur pour ton cadeau, pour la vie éternelle, pour le salut, pour le pardon de tous nos péchés. Merci pour ce rappel, pour cette étude biblique ce matin autour de la question du salut. Merci de renouveler en chacun de nous la joie du salut. Comme le disait David, renouvelle en moi la joie du salut. Merci Seigneur, garde-nous de nous habituer à ce que tu as fait pour nous. Garde-nous Seigneur, aide-nous à chérir ton esprit, à chérir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous regardons en arrière, nous ne pouvons que dire ce que disait Anne tout à l'heure. Ce que nous sommes, nous te le devons en priorité. Et te remercions pour Jésus, te remercions pour ton esprit. Te remercions également pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour la communion fraternelle, pour les amis qui nous aide à progresser, à avancer dans la même direction. Influencés que nous sommes par la parole de Dieu, par les vies transformées. Merci Seigneur, à toi toute notre reconnaissance et toute notre louange. Et tous ceux qui sont d'accord avec moi disent un grand Amen. Merci beaucoup Anne, merci. Merci de vaincre ta timidité et de venir nous parler comme tu le fais. Et Dieu est en train de progresser avec toi et tu es en train de progresser avec lui. Et on va te faire une petite surprise maintenant. Et pour tous les aînés, tous les anciens qui ont grandi avec ce chant comme moi, j'étais à l'école du dimanche quand je l'ai appris pour la première fois. J'avais 12 ans. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Curtis. Amen, amen. Voilà, c'est ainsi que se termine notre culte ce matin. On vous souhaite à tous un bon retour, une bonne rentrée, un bon moment autour des tables. Et à vous qui êtes en ligne, salutations, bénédictions et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.